Chapitre 4, fragment de la campagne d'Italie. J'ai dit plus haut, quelque part dans ce recueil, que je donnerais des fragments de la campagne d'Italie demeurés en mes mains. Me voilà, à la fin d'un mois, j'en vais placer quelques chapitres. À mon retour en France, par la funeste circonstance qui m'a rendu à moi-même les motifs de garder pour moi seul les fragments de la campagne d'Italie que je possédais du consentement de l'empereur n'existant plus, et la privation de mes papiers par le ministère anglais ne me laissant pas l'occasion de rien publier sur Sainte-Hélène, je distribuais quelques-uns de ces fragments, ne mettant d'autres conditions à leur publicité que de bien spécifier qu'ils étaient de simples brouillons de première dictée qui auraient reçu sans doute par la suite de grandes altérations. Aujourd'hui que la restitution de mes papiers m'a mis à même de publier le mémorial de Sainte-Hélène, j'ai eu la pensée d'y réunir tous ces fragments de la campagne d'Italie, imaginant qu'ils ne seront pas sans intérêt pour ceux qui aimeront à comparer ce premier jet avec les idées arrêtées. D'autant plus que, tenant des dépositaires même du manuscrit de ces campagnes, que la volonté de l'empereur a été que le tout fût publié avec luxe, cartes, plans, etc., et dédié à son fils, j'ai tout lieu de croire qu'on sera longtemps encore avant de jouir de cette publication. J'insérerai donc le peu que je possède, 7 chapitres sur 22, soit à la fin des mois, soit dans le cours même du journal, quand il viendra à languir. Voici pour le présent les premiers de ces fragments, Vendémiaire, la bataille de Montenotte et la partie du chapitre 3 sur la topographie d'Italie. 13 Vendémiaire, constitution de l'an 3. La chute de la municipalité du 31 mai et du parti de Danton de Robespierre amena la chute des Jacobins et la fin du gouvernement révolutionnaire. Depuis, la Convention fut successivement gouvernée par des factions qui ne surent acquérir aucune prépondérance. Ses principes variaient chaque mois. Une épouvantable réaction affligea l'intérieur de la République. Les domaines cessèrent de se vendre, et le discrédit des assignats croissant chaque jour, les armées se trouvaient sans solde, les réquisitions et le maximum y avaient seuls maintenu l'abondance. Les magasins se vidèrent. Le pain même du soldat ne fut plus assuré. Le recrutement, dont les lois avaient été exécutées avec la plus grande rigueur sous le gouvernement révolutionnaire, cessa. Les armées continuèrent d'obtenir de grands succès parce que jamais elles n'avaient été plus nombreuses. Mais les armées éprouvaient des pertes journalières, il n'y avait plus de moyens pour les réparer. Le parti de l'étranger, qui s'étayait du prétexte du rétablissement des Bourbons, acquérait chaque jour de nouvelles forces. Les salons étaient ouverts, on y discourait sans crainte. Les communications étaient devenues plus faciles avec l'extérieur, la perte de la République se tramait publiquement. La Révolution était vieille, elle avait froissé bien des intérêts. Une main de fer avait pesé sur les individus, bien des crimes avaient été commis, ils furent tous relevés avec acharnement, et chaque jour davantage on excita l'animadversion publique contre tous ceux qui avaient gouverné, administré ou participé, d'une manière quelconque, au succès de la Révolution. Pichegru avait été gagné, c'était le premier général de la République, fils d'un laboureur de Franche-Comté et frère minime dans sa jeunesse au collège de Brienne. Il se vendit au parti royal et lui livra le succès des opérations de son armée. Les prosélytes des ennemis de la République ne furent pas nombreux dans l'armée. Elle resta fidèle aux principes de la Révolution pour lesquels elle avait versé tant de sang et remporté tant de victoires. Tous les partis étaient fatigués de la Convention. Elle l'était elle-même. Sa mission avait été l'établissement de la Constitution. Elle vit enfin que le salut de la patrie, le sien propre, exigeait que, sans délai, elle remplît sa principale mission. Elle adopta, le 21 juin 1795, la Constitution connue sous le titre de Constitution de l'an 3. Le gouvernement était confié à 5 personnes, sous le nom de Directoire, la législature à 2 conseils, dits des 500 et des anciens. Cette constitution fut soumise à l'acceptation du peuple, réuni en assemblée primaire. 2. Loi additionnelle à la Constitution. L'opinion était généralement répandue qu'il fallait attribuer la chute de la Constitution de 91 à la loi de la Constituante qui excluait ses membres de la législature. La Convention ne tomba pas dans la même faute. Elle joignit à la Constitution 2 lois additionnelles par lesquelles elle prescrivit que les 2/3 de la législature nouvelle seraient composés des membres de la Convention et que les assemblées électorales de département n'auraient à nommer pour cette fois qu'un tiers seulement des 2 conseils. La Convention prescrivit de plus que ces 2 lois additionnelles seraient soumises à l'acceptation du peuple comme parties inséparables de la Constitution. Le mécontentement fut dès lors général. Le parti de l'étranger surtout voyait tous ses projets déjoués par ces dispositions. Il s'était flatté que les 2 conseils auraient été entièrement composés d'hommes neufs et étrangers à la Révolution, ou même en partie de ceux qui en avaient été victimes, et dès lors il espérait d'arriver à la contre-révolution par l'influence même de la législature. Ce parti ne manquait pas de très bonnes raisons pour cacher les véritables motifs de son mécontentement. Il alléguait que les droits du peuple étaient méconnus, puisque la Convention, qui n'avait eu de mission que pour établir une constitution, usurpait les pouvoirs d'un corps électoral en donnant elle-même à ses membres les pouvoirs d'un corps législatif. Que la preuve que la Convention savait qu'elle agissait contre l'intention du peuple, c'est qu'elle imposait aux assemblées primaires la condition arbitraire de voter à la fois sur l'ensemble de la Constitution et ses lois additionnelles. La Convention ne devait vouloir que ce que voulait le peuple. Pourquoi ne laissait-elle pas voter séparément sur la Constitution et les lois additionnelles? C'est qu'elle savait que les lois additionnelles seraient unanimement rejetées. Quant à la Constitution en elle-même, elle était préférable sans doute à ce qui existait, et sur ce point, tous les partis étaient d'accord. Les uns, il est vrai, eussent voulu un président au lieu de 5 directeurs, les autres auraient désiré un conseil plus populaire. Mais en général, on vit cette nouvelle Constitution avec plaisir. Quant aux partis de l'étranger, qui étaient dirigés par des comités secrets, ils n'attachaient aucune importance à ces formes de gouvernement qu'ils ne voulaient pas maintenir. Ils n'étudiaient dans la Constitution que le moyen d'en profiter pour opérer la contre-révolution. Et tout ce qui tendait à ôter l'autorité des mains de la Convention et des conventionnels lui était agréable. 3. Les lois additionnelles sont rejetées par les sections de Paris. Les 48 sections de Paris se réunirent. Ce furent 48 tribunes dans lesquelles accoururent les orateurs les plus virulents, la Harpe, Sérisy, la Cretelle Jeune, Vaublanc, Regnault, etc. Il fallait peu de talent pour exciter tous les esprits contre la Convention, et plusieurs de ces orateurs en montrèrent beaucoup. La capitale fut ainsi mise en fermentation. Après le 9 Thermidor, on avait organisé la garde nationale. On avait eu en vue d'en éloigner les Jacobins, mais on était tombé dans l'extrait contraire et les contre-révolutionnaires s'y trouvaient en assez grand nombre. Cette garde nationale était de plus de 40 000 hommes, armés et habillés. Elle partagea toute l'exaspération des sectionnaires contre la Convention, et les lois additionnelles furent rejetées dans Paris. Les sections se succédèrent à la barre de la Convention et y manifestaient hautement leur opinion. La Convention, cependant, croyait encore que toute cette agitation se calmerait aussitôt que les provinces auraient manifesté leur opinion par l'acceptation de la Constitution et des lois additionnelles. Elle croyait pouvoir comparer cette agitation de la capitale à ces commotions si communes à Londres et dont Rome avait si souvent donné l'exemple au temps des comices. Elle proclama le 23 septembre l'acceptation de la Constitution et des lois additionnelles par la majorité des assemblées ordinaires. Mais dès le lendemain, les sections de Paris nommèrent des députés pour former une assemblée centrale d'électeurs qui se réunirent à l'Odéon. 4. Résistance armée des sections de Paris. Les sections avaient mesuré leurs forces, évalué la faiblesse de la Convention. Cette assemblée d'électeurs fut une assemblée d'insurgés. La Convention annula l'assemblée de l'Odéon, la déclara illégale et ordonna à ses comités de la dissoudre par la force. Le 10 Vendémiaire, la force armée se porta à l'Odéon et exécuta cet ordre. Le peuple, rassemblé sur la place de l'Odéon, fit entendre quelques murmures, se permit quelques injures, mais n'opposa aucune résistance. Le décret de la Convention qui fermait l'Odéon excita l'indignation de toutes les sections. celle Le Pelletier, dont le chef-lieu était un couvent des filles Saint-Thomas, paraissait être à la tête de ce mouvement. Un décret de la Convention ordonna que le lieu de ces séances fût fermé, l'Assemblée dissoute et la section désarmée. Le 12 Vendémiaire, 3 octobre, à 7 ou 8 heures du soir, le général Menoux, accompagné des représentants du peuple, commissaire près de l'armée de l'intérieur, se rendit avec un corps nombreux de troupes au lieu des séances de la section Le Pelletier pour y faire exécuter le décret de la Convention. Infanterie, cavalerie, artillerie, tout fut entassé dans la rue Vivienne, à l'extrémité de laquelle était le couvent des filles Saint-Thomas. Les sectionnaires occupaient les fenêtres des maisons de cette rue. Plusieurs de leurs bataillons se rangèrent en bataille dans la cour du couvent. Et la force militaire que commandait le général Menoux se trouva compromise. Le comité de la section s'était déclaré représentant du peuple souverain dans l'exercice de ses fonctions. Il refusa d'obéir aux ordres de la Convention, et après une heure d'inutile pourparlers, le général Menoux et les commissaires de la Convention se retirèrent par une espèce de capitulation sans avoir désarmé ni dissous ce rassemblement. 5. Menoux est destitué du commandement de l'armée de l'intérieur. La section, demeurée victorieuse, se constitua en permanence, envoya des députations à toutes les autres sections, vanta ses succès et pressa l'organisation qui pouvait assurer sa résistance. On se prépara à la journée du 13 Vendémiaire. Le général Bonaparte, attaché depuis quelques mois à la direction du mouvement des armées de la République, était dans une loge à Feydeau lorsque, de ses amis, le prévinrent de la scène singulière qui se passait. Il fut curieux d'observer les détails d'un grand spectacle. Voyant les troupes conventionnelles repoussées, il courut aux tribunes de l'Assemblée pour y juger de l'effet de cette nouvelle et suivre les développements et la couleur qu'on y donnerait. La Convention était dans la plus grande agitation. Les représentants auprès de l'armée, pour se disculper, se hâtèrent d'accuser Menoux. On attribua à la trahison ce qui n'était dû qu'à la malhabileté. Il fut mis en arrestation. Alors différents représentants se montrèrent successivement à la tribune. Ils peignirent l'étendue du danger. Les nouvelles qui, à chaque instant, arrivaient des sections, ne faisaient voir que trop combien il était grand. Chacun des membres proposa le général qui avait sa confiance. Ceux qui avaient été à Toulon, à l'armée d'Italie, et les membres du comité de salut public qui avaient des relations journalières avec Napoléon, le proposèrent comme plus capable que personne de les tirer de ce pas dangereux par la promptitude de son coup d'œil et l'énergie de son caractère. On l'envoya chercher dans la ville. Napoléon, qui avait tout entendu et savait ce dont il était question, délibéra près d'une demi-heure avec lui-même sur ce qu'il avait à faire. Une guerre à mort éclatait entre la Convention et Paris. Était-il sage de se déclarer, de parler au nom de toute la France? Qui oserait descendre seul dans l'arène pour se faire le champion de la Convention? La victoire même aurait quelque chose d'odieux, tandis que la défaite vouerait pour jamais à l'exécration des races futures. Comment se dévouer ainsi à être le bouc émissaire de tant de crimes auxquels on fut étranger? Pourquoi s'exposer bénévolement à aller grossir en peu d'heures le nombre de ces noms qu'on ne prononce qu'avec horreur? Mais d'un autre côté, si la Convention succombe, que deviennent les grandes vérités de notre Révolution? De nombreuses victoires, notre sang si souvent versé, ne sont plus que des actions honteuses. L'étranger que nous avons tant vaincu triomphe et nous accable de son mépris. Un entourage insolent et dénaturé reparaît triomphant, nous reproche nos crimes, exerce ses vengeances et nous gouverne en ilote par la main de l'étranger. Ainsi la défaite de la Convention scindrait le front de l'étranger et scellerait la honte et l'esclavage de la patrie. Ce sentiment, 25 ans, la confiance en ses forces, sa destinée, il se décida et se rendit au comité auquel il peignit vivement l'impossibilité de pouvoir diriger une opération aussi importante avec 3 représentants qui, dans le fait, exerçaient tous les pouvoirs et gênaient toutes les opérations du général. Il ajouta qu'il avait été témoin de l'événement de la rue Vivienne et que les commissaires avaient été les plus coupables, et s'étaient pourtant trouvés au sein de l'Assemblée des accusateurs triomphants. frappé de ses raisons, mais dans l'impossibilité de destituer les commissaires sans une longue discussion dans l'assemblée, le comité, pour tout concilier, car on n'avait pas de temps à perdre, détermina de prendre le général dans l'assemblée même. Dans cette vue, il proposa Barras à la Convention comme général en chef et donna le commandement à Napoléon qui, par là, se trouvait débarrassé des trois commissaires sans qu'ils eussent à se plaindre. Aussitôt que Napoléon se trouva chargé du commandement des forces qui devaient protéger l'Assemblée, il se transporta dans un des cabinets des Tuileries où était Menou afin d'obtenir de lui les renseignements nécessaires sur les forces et la position des troupes et celle de l'artillerie. L'armée n'était que de 5000 hommes, de toutes armes, avec 40 pièces de canon, alors au sablon, sous la garde de 15 hommes. Il était 1 heure après minuit. Napoléon expédia aussitôt un chef d'escadron du 21e chasseur, Murat, avec 300 chevaux, pour se rendre en toute diligence au sablon et ramener l'artillerie au jardin des Tuileries. Un moment plus tard, il n'était plus temps. Cet officier, arrivant à 2 heures au sablon, s'y trouva avec la tête d'une colonne de la section, le pelletier, qui venait saisir le parc. Mais il était à cheval, on était en plaine, la section se retira, et à 6 heures du matin, les 40 pièces entrèrent aux Tuileries. 6. Disposition d'attaque et de défense des Tuileries. Depuis 6 heures jusqu'à 9, Napoléon courut tous les postes et plaça cette artillerie à la tête du pont Louis XVI, du pont Royal, de la rue de Rohan, au cul-de-sac Dauphin, dans la rue Saint-Honoré, au pont Tournant, etc., etc. Il en confia la garde à des officiers sûrs. La mèche était allumée partout et la petite armée distribuée aux différents postes ou en réserve, au jardin et au carrousel. La générale battait partout Paris, et les gardes nationales se formaient à tous les débouchés, cernant ainsi le palais et les jardins. Leurs tambours portaient l'audace jusqu'à venir battre la générale sur le carrousel et sur la place Louis XV. Le danger était imminent. 40 000 gardes nationaux, bien armés et organisés depuis longtemps, se présentaient animés contre la Convention. Les troupes de ligne chargées de la défendre étaient peu nombreuses et pouvaient être facilement entraînées par le sentiment de la population qui les environnait. La Convention, pour accroître ses forces, donna des armes à 1 500 individus, dit les patriotes de 89. C'étaient des hommes qui, depuis le 9 Thermidor, avaient perdu leurs emplois et quitté leur département où ils étaient poursuivis par l'opinion. On en forma 3 bataillons que l'on confia au général Berruyer. Ces hommes se battirent avec la plus grande valeur. Ils entraînèrent les troupes de ligne et furent pour beaucoup dans le succès de la journée. Un comité de 40 membres, sous la présidence de Cambacérès et composé du comité de salut public et de sûreté générale, dirigeait toutes les affaires. On discutait beaucoup, on ne décidait rien, et le danger devenait à chaque instant plus pressant. Les uns voulaient qu'on posât les armes et qu'on reçût les sectionnaires comme les sénateurs romains avaient reçu les Gaulois. D'autres voulaient qu'on se retirât sur les hauteurs de Saint-Cloud, au camp de César, pour y être joint par l'armée des côtes de l'océan. D'autres voulaient qu'on envoyât des députations aux 48 sections pour leur faire diverses propositions. Pendant ces vaines discussions, et à 2 heures après-midi, un nommé Lafont déboucha sur le Pont-Neuf, venant de la section Le Pelletier à la tête de 3 ou 4 bataillons, dans le temps qu'une autre colonne de même force venait de l'Odéon à sa rencontre. Ils se réunirent sur la place Dauphine. Le général Carteau avait été placé au pont Neuf avec 400 hommes et 4 pièces de canon, ayant l'ordre de défendre les côtés de ce pont. Il quitta son poste et se replia sur les guichets. En même temps, un bataillon de gardes nationaux venait occuper le jardin de l'Infante. Il se disait affectionné à la Convention et pourtant saisissait ce poste sans ordre. D'un autre côté, Saint-Roch, le théâtre français, et l'hôtel de Noailles était occupé en force par la garde nationale. Les postes opposés n'étaient séparés que de 12 à 15 pas. Les sectionnaires envoyaient des femmes à chaque instant ou se présentaient eux-mêmes sans armes et les chapeaux en l'air pour fraterniser avec la ligne. 7. Combat du 13 Vendémiaire. À chaque instant, les affaires empiraient. À 3 heures, Danican envoya un parlementaire sommer la Convention d'éloigner les troupes qui menaçaient le peuple et de désarmer les terroristes. Ce parlementaire traversa les postes les yeux bandés avec toutes les formes de la guerre. Il fut introduit ainsi au milieu du comité des 40 qui l'émut beaucoup par ses remarques. On le renvoya vers les 4 heures. La nuit approchait. Il n'était pas douteux qu'elle ne dût être favorable aux sectionnaires, vu le grand nombre. Ils pouvaient se faufiler de maison en maison, dans toutes les avenues des Tuileries déjà étroitement bloquées. À peu près à la même heure, on apporta dans la salle de la Convention 700 fusils, des gibernes et des cartouches, pour armer les conventionnels eux-mêmes comme corps de réserve, ce qui en alarma plusieurs, qui ne comprirent qu'alors la grandeur du danger où ils étaient. Enfin, à 4h15, des coups de fusil furent tirés de l'hôtel de Noailles, où s'étaient introduits les sectionnaires. Les balles arrivaient jusqu'au perron des Tuileries. Au même moment, la colonne Lafon déboucha sur le quai Voltaire, marchant sur le pont Royal. Alors on donna l'ordre aux batteries de tirer. Une pièce de 8, au cul-de-sac Dauphin, commença le feu et servit de signal pour tous les postes. Après plusieurs décharges, Saint-Roch fut enlevé. La colonne Lafon, prise en tête et en écharpe par l'artillerie placée sur le quai à la hauteur du guichet du Louvre et à la tête du pont Royal, fut mise en déroute. La rue Saint-Honoré, la rue Saint-Florentin et les lieux adjacents furent balayés. Une centaine d'hommes essayèrent de résister au théâtre de la République, quelques obus les délogèrent en un instant. À 6h, tout était fini. Si l'on entendait dans la nuit, de loin en loin, quelques coups de canon, c'était pour empêcher les barricades que quelques habitants avaient cherché à établir avec des tonneaux. Il y eut environ 200 tués ou blessés du côté des sectionnaires et presque autant du côté des conventionnels. La plus grande partie de ceux-ci aux portes de Saint-Roch. Trois représentants, Fréron, Louvet et Sieyès, montrèrent de la résolution. La section des 15-20, Faubourg Saint-Antoine, est la seule qui ait fourni 250 hommes à la Convention, tant ces dernières oscillations politiques avaient indisposé toutes les classes. Toutefois, si les faubourgs ne se levèrent point en sa faveur, du moins ils n'agirent pas non plus contre elle. Il est faux qu'on ait fait tirer à poudre au commencement de l'action. Cela n'eût servi qu'à enhardir les sectionnaires et à compromettre les troupes. Mais il est vrai que le combat, une fois engagé, le succès n'étant plus douteux, alors on ne tira plus qu'à poudre. 8. Le 14 Vendémiaire. Il existait encore des rassemblements dans la section Le Pelletier. Le 14, au matin, des colonnes débouchèrent contre eux par les boulevards, la rue de Richelieu et le Palais Royal. Des canons avaient été placés aux principales avenues. Les sectionnaires furent promptement délogés et le reste de la journée fut employé à parcourir la ville, à visiter les chefs-lieux des sections, à ramasser les armes et à lire des proclamations. Le soir, tout était rentré dans l'ordre et Paris se trouvait parfaitement tranquille. Lorsque, après ce grand événement, les officiers de l'armée de l'intérieur furent présentés encore à la Convention, celle-ci, par acclamation, nomma Napoléon général en chef de cette armée, Barras ne pouvant cumuler plus longtemps le titre de représentant avec des fonctions militaires. Le général Menou fut traduit à un conseil de guerre, on voulait sa mort. Le général en chef le sauva en disant au juge que si Menou méritait la mort, les trois représentants qui avaient dirigé les opérations et parlementé avec les sectionnaires la méritaient aussi, que la Convention n'avait qu'à mettre en jugement les trois membres et qu'alors on jugerait Menou. L'esprit de corps fut plus puissant que la voix des ennemis de Menou. La même commission condamna plusieurs individus à mort par contumace, entre autres Vaublanc. Le nommé Lafon fut le seul exécuté. Ce jeune homme avait montré beaucoup de courage dans l'action. La tête de sa colonne sur le pont Royal se reforma trois fois sous la mitraille avant de se disperser tout à fait. C'était un émigré, il n'y eut pas moyen de le sauver, quelque désir qu'on en eût. L'imprudence de ses réponses déjoua constamment les bonnes intentions de ses juges. 9. Napoléon commande en chef l'armée de l'intérieur. Après le 13 Vendémiaire, Napoléon eut à organiser la garde nationale, qui était un objet de la plus haute importance, comptant alors jusqu'à 140 bataillons. Il forma en même temps la garde du directoire et réorganisa celle du corps législatif. Ces mêmes éléments se trouvèrent précisément dans la suite une des causes de son succès à la fameuse journée du 18 Brumaire. Il avait laissé de tels souvenirs parmi ses corps qu'à son retour d'Égypte, bien que le directoire eût recommandé à ses soldats de ne point lui rendre d'honneur militaire qu'il ne fût en grand uniforme, rien ne put les empêcher de battre au champ de quelque manière qu'il parût. Le peu de mois que Napoléon commanda l'armée de l'intérieur se trouvèrent remplis de difficultés et d'embarras. Ce furent l'installation d'un gouvernement nouveau, dont les membres étaient divisés entre eux et souvent en opposition avec les conseils. une fermentation sourde parmi les anciens sectionnaires qui composaient la majorité de Paris, la turbulence active des Jacobins qui se reformaient sous le nom de Société du Panthéon, les agents des étrangers et ceux du royalisme qui formaient un parti puissant, le discrédit des finances et du papier-monnaie qui mécontentait les troupes à l'extrême, mais plus que tout cela encore, l'horrible famine qui, à cette époque, désola la capitale. 10 ou 12 fois, les subsistances manquèrent et les faibles distributions journalières que le gouvernement avait été contraint d'établir furent interrompues. Il fallait une activité et une dextérité peu communes pour surmonter tant d'obstacles et maintenir le calme dans la capitale en dépit de circonstances si fâcheuses et si graves. La Société du Panthéon donnait chaque jour plus d'inquiétude au directoire. La police n'osait aborder cette société de front. Le général en chef fit mettre le scellé sur le lieu de ses assemblées et les membres ne bougèrent plus tant qu'il demeura présent. Ce ne fut qu'après son départ qu'ils parurent de nouveau sous l'influence de Babeuf, Antonelle et autres et éclatèrent au camp de Grenelle. Il eut souvent à haranguer à la halle, dans les rues, aux sections et dans les faubourgs. Et une remarque singulière à ce sujet, c'est que, de toutes les parties de la capitale, le faubourg Saint-Antoine est celui qu'il a toujours trouvé le plus facile à entendre raison et à recevoir des impulsions généreuses. Ce fut pendant le commandement de Paris que Napoléon fit la connaissance de Madame de Beauharnais. On avait exécuté le désarmement général des sections. Il se présenta à l'état-major, un jeune homme de 10 à 12 ans, qui vint supplier le général en chef de lui faire rendre l'épée de son père, qui avait été général de la République. Ce jeune homme était Eugène de Beauharnais, depuis vice-roi d'Italie. Napoléon, touché de la nature de sa demande et des grâces de son âge, lui accorda ce qu'il demandait. Eugène se mit à pleurer en voyant l'épée de son père. Le général en fut touché et lui témoigna tant de bienveillance que Madame de Beauharnais se crut obligée de venir le lendemain lui en faire des remerciements. Napoléon s'empressa à lui rendre sa visite. Chacun connaît la grâce extrême de l'impératrice Joséphine, ses manières douces et attrayantes. La connaissance devint bientôt intime et tendre et ils ne tardèrent pas à se marier. 10. Napoléon est nommé général en chef de l'armée d'Italie. On reprochait à Scherer, commandant de l'armée d'Italie, de ne pas avoir su profiter de sa bataille de Loano. Depuis, on était peu satisfait de sa conduite. On voyait à son quartier général de Nice beaucoup plus d'employés que de militaires. Ce général demandait de l'argent pour solder ses troupes et réorganiser les différents services. Il demandait des chevaux pour remplacer les siens qu'on avait laissés périr faute de subsistance. Le gouvernement ne pouvait donner ni l'un ni l'autre. On lui fit des réponses dilatoires, on l'amusa par de vaines promesses. Il fit connaître alors que si l'on tardait davantage, il serait obligé d'évacuer la rivière de Gênes, de revenir sur la Roya, et peut-être même de repasser le Var. Le directoire résolut de le remplacer. Un jeune général de 25 ans ne pouvait rester plus longtemps à la tête de l'armée de l'intérieur. Le sentiment de ses talents et la confiance que l'armée d'Italie avait en lui le désignaient comme seul capable de la tirer de la fâcheuse situation où elle se trouvait. Les conférences qu'il eut avec le directoire à ce sujet et les projets qu'il lui présenta ne laissèrent plus aucun doute. Il partit pour Nice et le général Attry, âgé de 60 ans, vint de l'armée de Sambre-et-Meuse le remplacer à l'armée de l'intérieur, laquelle avait perdu son importance depuis que la crise des subsistances était passée et que le gouvernement se trouvait assis. Bataille de Montenotte. Depuis l'arrivée du général en chef à Nice le 28 mars 1796 jusqu'à l'armistice de Kerasque le 28 avril suivant, espace d'un mois. 1. Plan de bataille pour entrer en Italie en tournant les Alpes. Le roi de Sardaigne, que sa position géographique et militaire a fait appeler le portier des Alpes, avait en 1796 des forteresses à l'issue de toutes les gorges qui conduisent en Piémont. Si l'on eût voulu pénétrer en Italie en forçant les Alpes, il eût fallu s'emparer de ces forteresses. Or, les routes ne permettaient pas le transport de l'artillerie de siège. D'ailleurs, les montagnes sont couvertes de neige les trois quarts de l'année, ce qui ne laisse que très peu de temps pour le siège de ces places. ont conçu l'idée de tourner les Alpes et d'entrer en Italie précisément au point où cessent ces hautes montagnes et où les Apennins commencent. Le Saint-Gothard est le col le plus élevé des Alpes. À partir de ce col, les autres vont toujours en baissant. Ainsi, le Saint-Gothard est plus haut que le Brenner, celui-ci que les montagnes de Cador, les montagnes de Cador que le col de Tarvis et que les montagnes de la Carniole. De l'autre côté, le Saint-Gothard est plus haut que le Simplon. Le Simplon est plus haut que le Saint-Bernard plus haut que le Mont-Cenis plus haut que le col de Tende. Depuis celui-ci, les Alpes continuent de baisser toujours et finissent enfin aux montagnes Saint-Jacques, près Savone, où commencent les Apennins. Alors la chaîne de l'Apennin se relève et va toujours en augmentant dans un mouvement inverse. De sorte que la Bocchetta, les cols voisins, ceux qui séparent la Ligurie des États de Parme, la Toscane du Modenais, du Bolognais, vont toujours en s'élevant. La vallée de Madone, de Savone, et les mamelons de Saint-Jacques et de Montenotte sont donc tout à la fois les points les plus abaissés des Alpes et des Apennins, celui où finissent les uns et où commencent les autres. Savone, port de mer et place forte, se trouvait placé pour servir tout à la fois de magasin et de point d'appui. De cette ville à la Madone, le chemin est une chaussée ferrée de 3 000, et de la Madone à Carciari, il y a 4 ou 5 autres milles. Ce dernier intervalle pourrait être rendu praticable à l'artillerie en peu de jours. À Carcari, l'on trouve des chemins de voiture qui conduisent dans l'intérieur du Piémont et du Montferrat. Ce point était le seul où l'on put entrer en Italie sans trouver de montagne. Les élévations de terrain y sont si peu de choses qu'on a conçu plus tard, sous l'Empire, le projet d'un canal qui aurait joint l'Adriatique à la Méditerranée à l'aide du Pô et d'une branche de la Bormida, dont la source part des hauteurs qui avoisinent Savone. En pénétrant en Italie par les sources de la Bormida, on pouvait se flatter de séparer et de désunir les armées sardes et autrichiennes, puisque de là on menaçait également la Lombardie et le Piémont. On pouvait marcher sur Milan comme sur Turin. Les Piémontais avaient intérêt à couvrir Turin et les Autrichiens à couvrir Milan. Deux états des deux armées. L'armée ennemie était commandée par le général Beaulieu, officier distingué, qui avait acquis de la réputation dans les campagnes du Nord. Cette armée se trouvait munie de tout, ce qui pouvait la rendre redoutable. L'armée française, au contraire, manquait de tout et son gouvernement ne pouvait rien lui donner. L'armée des Alliés se composait d'Autrichiens, de Sardes, de Napolitains. Il se trouvait déjà triple de l'armée française et devait s'accroître encore successivement des forces du pape, de Naples, de celles de Modène et de Parme. Cette armée se divisait en deux grands corps, l'armée active autrichienne composée de 4 divisions, d'une forte artillerie et d'une nombreuse cavalerie, accrue d'une division napolitaine formant un total de 60 000 hommes sous les armes. L'armée active de Sardaigne composée de 3 divisions piémontaises, d'une division autrichienne ayant 4 000 chevaux, était commandée par le général autrichien Colli, qui lui-même était aux ordres du général Beaulieu. Le reste des forces sardes tenaient garnison dans les places où défendaient les cols opposés à l'armée française des Alpes. Elles étaient commandées par le duc d'Aoste. L'armée française était composée de 4 divisions actives sous les généraux Masséna, Augereau, La Harpe et Serrurier. Chacune de ces divisions pouvait, l'une portant l'autre, présenter 6 à 7 000 hommes sous les armes. La cavalerie, de 3 000 chevaux, était dans le plus mauvais état, quoiqu'elle eût été longtemps sur le Rhône pour se refaire, mais elle y avait manqué de subsistance. L'arsenal d'Antibes et celui de Nice étaient bien pourvus, mais on manquait de moyens de transport. Tous les chevaux de trait avaient péri de misère. La pénurie des finances était telle en France que, malgré tous les efforts du gouvernement, on ne put donner que 2 000 louis en espèces au trésor de l'armée pour l'ouverture de la campagne. Il n'y avait donc rien à espérer de la France. Toutes les ressources, désormais, ne pouvaient s'attendre que de la victoire. Ce n'était que dans les plaines d'Italie que l'on pouvait organiser les transports, atteler l'artillerie, habiller les soldats, monter la cavalerie. On conquérait tout cela si l'on forçait l'entrée de l'Italie. L'armée française n'avait guère à la vérité que 30 000 hommes et on lui en présentait plus de 90 000. Si ces deux armées eussent eu à lutter dans une bataille générale, sans doute l'infériorité du nombre de l'armée française et son infériorité en artillerie et en cavalerie ne lui eussent pas permis de résister. mais ici on pouvait suppléer au nombre par la rapidité des marches, à l'artillerie par la nature des manœuvres, au manque de cavalerie par la nature des positions. Et le moral de nos troupes était excellent. Tous les soldats avaient fait les autres campagnes d'Italie ou celles des Pyrénées. 3. Napoléon arrive à Nice. Napoléon arriva à Nice du 26 au 29 mars. Le tableau de l'armée qui lui fut présenté par Scherer se trouva pire encore que tout ce qu'il avait pu imaginer. Le pain était mal assuré depuis longtemps et il ne se faisait plus de distribution de viande. Il ne fallait compter que sur 200 mulets pour les transports et l'on ne pouvait pas songer à conduire plus de 12 pièces de canon. Chaque jour, la position empirait. Il ne fallait pas perdre un instant. L'armée ne pouvait plus vivre où elle l'était. Il fallait avancer ou reculer. Le général français donna des ordres pour que son armée se mît en mouvement. Il voulait surprendre l'ennemi dès le début de la campagne et l'étourdir par des succès éclatants et décisifs. Le quartier général n'avait jamais quitté Nice depuis le commencement de la guerre. Il reçut l'ordre de se rendre à Albenga. Depuis longtemps, toutes les administrations se regardaient comme à poste fixe et s'occupaient bien plus des commodités de la vie que des besoins de l'armée. Le général français passa la revue des troupes et leur dit « Soldats, vous êtes nus, mal nourris, on nous doit beaucoup, on ne peut rien nous donner. Votre patience, le courage que vous montrez au milieu de ces rochers sont admirables, mais ils ne vous procurent aucune gloire. » Je vais vous conduire dans les plaines les plus fertiles du monde. De riches provinces, de grandes villes seront en notre pouvoir. Et là, vous aurez richesse, honneur et gloire. Soldats d'Italie, manqueriez-vous de courage ? Ces discours, un jeune général de 25 ans en qui la confiance était déjà grande par les opérations brillantes de Toulon, de South Joe, de Savone et dirigées par lui les années précédentes, était accueilli par de vives acclamations. En voulant tourner toutes les Alpes et entrer en Italie par le col de Cadibone, il fallait que toute l'armée se rassemblât sur son extrême droite, opération dangereuse si les neiges n'eussent pas alors ouvert les débouchés des Alpes. Le passage de l'ordre défensif à l'ordre offensif est une des opérations les plus délicates. Serrurier fut placé à Garezzo avec sa division pour observer les champs que Colli avait sur Seva. Masséna et Augereau furent placés en réserve à Loano, Finale et jusqu'à Savone. La Harpe marcha pour menacer Gênes. Son avant-garde, commencée par Cervoni, occupa Voltri. Au même moment, le général en chef fit demander au Sénat de Gênes le passage de la Bocchetta et les clés de Gavi, annonçant ainsi qu'il voulait pénétrer en Lombardie et appuyer ses opérations sur la ville de Gênes. La rumeur fut extrême à Gênes. Les conseils se mirent en permanence. Bataille de Montenotte, 11 avril. Beaulieu, alarmé, court en toute hâte de Milan au secours de Gênes. Il porte son quartier général à Novi, partage son armée en trois corps. La droite, sous les ordres de Colli, composée de Piémontais, eut son quartier général à Sceva. Elle fut chargée de la défense de la Stura et du Tanaro. Le centre, sous les ordres d'Argenteau, marche sur Montenotte pour couper l'armée française en tombant sur son flanc gauche et lui intercepter à Savone la route de la Corniche. De sa personne, Beaulieu, avec sa gauche, couvre Gênes et marche sur Voltri. Au premier aspect, ces dispositions paraissent bien entendues. Mais en étudiant mieux les circonstances du pays, on découvre que Beaulieu divisait ses forces puisque toute communication directe était impraticable entre son centre et sa gauche, autrement que par derrière les montagnes. Tandis que l'armée française, au contraire, était placée de manière à se réunir en peu d'heures et tomber en masse sur l'un ou l'autre des corps ennemis. Et l'un d'eux fortement battu, l'autre était dans l'absolue nécessité de se retirer. Le général d'Argenteau, commandant le centre de l'armée ennemie, vint camper à Montenotte inférieur le 9 avril. Le 10, il marcha sur Monte Lepino pour déboucher par la Madone. Le colonel Rampon, qui avait été chargé de la garde des trois redoutes de Monteleghino, ayant eu avis de la marche de l'ennemi, poussa une forte reconnaissance à sa rencontre. Sa reconnaissance fut ramenée depuis midi jusqu'à 2 heures qu'elle rentra dans les redoutes. D'Argenteau essaya de les enlever d'emblée, il fut repoussé dans 3 attaques successives, il y renonça. Comme ses troupes étaient fatiguées, il prit position et remit au lendemain à tourner ses redoutes pour les faire tomber. Beaulieu, de son côté, déboucha le 9 sur Gênes. Toute la journée du 10, la Harpe se trouva engagée avec ses avant-gardes en avant de Voltry pour lui disputer les gorges et le contenir. Mais le 10 au soir, il se replia sur Savonne et le 11, à la pointe du jour, il se trouvait avec toute sa division derrière Rampon et les redoutes de Monteleghino. Dans cette même nuit du 10 au 11, le général en chef marcha avec les divisions Masséna et Augereau par le col Cadibone et déboucha derrière Montenotte. À la pointe du jour, d'Argenteau, enveloppé de tous côtés, fut attaqué en tête par Rampon et la Harpe, en queue et en flanc par le général en chef. La déroute fut complète. Tout le corps de d'Argenteau fut écrasé dans le même temps que Beaulieu se présentait à Voltry où il ne trouvait plus personne. Ce ne fut que dans la journée du 11 que le général apprit la défaite de Montenotte et l'entrée des Français dans le Piémont. Il lui fallut alors replier en toute hâte ses troupes sur elles-mêmes et repasser les mauvais chemins où les dispositions de son plan l'avaient forcé de se jeter. Il s'ensuivit que, 3 jours après la bataille de Montenotte, une partie seule de ses troupes put arriver à temps. 5. Bataille de Millésimo, 14 avril. Le 12, le quartier général de l'armée française était à Carcari. L'armée battue s'était retirée, les Piémontais sur Millésimo et les Autrichiens sur Dego. Ces deux positions étaient liées par une division piémontaise qui devait occuper les hauteurs de Biestro. À Millésimo, les Piémontais se trouvaient à cheval sur le chemin qui couvre le Piémont. Ils furent rejoints par Colli avec tout ce qu'il put tirer de la droite. À Dego, les Autrichiens occupaient la position qui défend le chemin d'Acqui, route directe du Milanais. Ils furent successivement rejoints par tout ce que Beaulieu put ramener de Voltry. Ils se trouvaient là en position de recevoir tous les renforts que pourrait leur fournir la Lombardie. Ainsi, les deux grands débouchés du Piémont et du Milanais étaient couverts. L'ennemi se flattait d'avoir le temps de s'y établir et de s'y retrancher. Quelque avantageuse que nous ait été la bataille de Montenotte, l'ennemi avait trouvé dans la supériorité du nombre de quoi réparer ses pertes. Mais le surlendemain, 14, la bataille de Millésimo nous ouvrit les deux routes de Turin et de Milan. Augereau, formant la gauche de l'armée française, marcha sur Millésimo. Masséna, avec le centre, se porta sur Dego, et la Harpe, commandant la droite, cheminait sur les hauteurs de Quero. L'ennemi avait appuyé sa droite en faisant occuper le mamelon de Cossiera qui domine les deux branches de la Bormida. Mais dès le 13, le général Augereau, qui n'avait pas donné à la bataille de Montenotte, poussa la droite de l'ennemi avec tant d'impétuosité qu'il lui enleva les gorges du Millésimo et cerna le mamelon de Cossiera. Provera, avec son arrière-garde forte de 2000 hommes, fut coupé. Dans une position aussi désespérée, il paya d'audace. Ce général se réfugia dans un vieux castel ruiné et s'y barricada. De cette hauteur, il voyait la droite de l'armée sarde, qui faisait les dispositions pour la bataille du lendemain, où il espérait être dégagé. Toutes les troupes de Colli, du camp de Cheva, devaient être arrivées dans la nuit. On sentait donc l'importance de s'emparer, dans la journée, du château de Cosseria. Mais ce poste était très fort, on y échoua. Le lendemain, les deux armées en vinrent aux mains. Masséna et la Harpe enlevèrent Dego après un combat opiniâtre, Ménard et Joubert les hauteurs de Biestro. Toutes les attaques de Colli pour dégager Cosseria furent vaines. Il fut battu et poursuivi l'épée dans les reins. Alors Provera dut poser les armes. L'ennemi, vivement poursuivi dans les gorges de Spigno, y laissa une partie de son artillerie, beaucoup de drapeaux et de prisonniers. La séparation des deux armées autrichiennes et sardes fut dès lors bien marquée. Beaulieu porta son quartier général à Acqui, route du Milanais, et Colli se porta à Cheva pour s'opposer à la jonction de Serrurier et couvrir Turin. 6. Combat de Dego, 15 avril. Cependant, une division de grenadiers autrichiens qui avait été dirigée de Voltry par Sassello arriva à 3 heures du matin à Dego. La position n'était plus occupée que par des avant-gardes. Ces grenadiers enlevèrent donc facilement le village et l'alarme fut grande au quartier général français où l'on avait peine à comprendre comment les ennemis pouvaient être à Dego lorsque nous avions des avant-postes sur la route d'Acqui. Après 2 heures d'un combat très chaud, Diego fut repris et la division ennemie presque entièrement prisonnière. Nous perdîmes dans ces affaires le général Bonnel à Millésimo et le général Causse à Diego. Ces deux officiers étaient de la bravoure la plus brillante. Ils venaient tous deux de l'armée des Pyrénées-Orientales, et il était à remarquer que les officiers qui arrivaient de cette armée montraient une impétuosité et un courage des plus distingués. C'est dans le village de Diego que Napoléon distingua pour la première fois un chef de bataillon qu'il fit colonel. C'était Lannes, qui depuis fut maréchal de l'Empire, duc de Montebello, et déploya les plus grands talents. On le verra constamment dans la suite prendre la plus grande part à tous les événements militaires. Le général français dirigea alors ses opérations sur Colli et le roi de Sardaigne, et se contenta de tenir les Autrichiens en échec. La harpe fut placée en observation près de Diego pour garantir nos arrières et tenir en respect Beaulieu qui, très affaibli, ne s'occupait plus qu'à rallier et réorganiser les débris de son armée. La division La Harpe, obligée de demeurer plusieurs jours dans cette position, s'y trouva vivement tourmentée par le défaut de subsistance, vu le manque de transport et l'épuisement du pays où avaient séjourné tant de troupes, ce qui donna lieu à quelques désordres. Serrurier, instruit à Garesio des batailles de Montenotte et de Millésimo, se mit en mouvement, s'empara de la hauteur de Saint-Jean et entra dans Cheva le même jour qu'Argenteau arrivait sur les hauteurs de Montezemoto. Le 17, après quelques légères affaires, Colli évacua le camp retranché de Cheva, les hauteurs de Montezemoto, et se retira sur la Corsalia. Le même jour, le général en chef porta son quartier général à Cheva. L'ennemi y avait laissé toute son artillerie, qu'il n'avait pas eu le temps d'emmener, et s'était contenté de laisser la garnison dans le château. Ce fut un spectacle sublime que l'arrivée de l'armée sur les hauteurs de Montezemoto. De là se découvraient les immenses et fertiles plaines du Piémont. Le Pô, le Tanaro et une foule d'autres rivières serpentaient au loin. Une ceinture blanche de neige et de glace d'une prodigieuse élévation cernait à l'horizon ce riche bassin de la terre promise. Ces gigantesques barrières, qui paraissent les limites d'un autre monde que la nature s'était plu à rendre si formidable, auquel l'art n'avait rien épargné, venaient de tomber comme par enchantement. Hannibal a forcé les Alpes, dit le général français en fixant ses regards sur ces montagnes, nous les aurons tournées. Une phrase heureuse qui exprimait en 2 mots la pensée et le résultat de la campagne. L'armée passa par le Tanaro. Pour la première fois, nous nous trouvions absolument en plaine et la cavalerie put alors nous être de quelque secours. Le général Stengel, qui la commandait, passa sur Corsalia à Lesegno et battit la plaine. Le quartier général fut porté au château de Lesegno, sur la droite de la Corsalia, près de l'endroit où elle se jette dans le Tanaro. 7. Combat de Saint-Michel, bataille de Mondovi, 20 et 22 avril. Le général Serrurier réunit ses forces à Saint-Michel. Le 20, il passa le pont de Saint-Michel en même temps que Masséna passait le Tanaro pour attaquer les Piémontais. Mais Colli, jugeant le danger de sa position, abandonna le confluent des deux rivières, marcha lui-même pour prendre position à Mondovi. Il se trouva, par une circonstance fortuite, avec ses forces, précisément devant Saint-Michel, comme le général Serrurier débouchait du pont. Il fit halte, lui opposa des forces supérieures et le força à se replier. Serrurier se fut pourtant maintenu dans Saint-Michel si un de ses régiments d'infanterie légère ne se fut livré au pillage. Le général français déboucha le 22 par le pont de Torre et se porta sur Mondovi. Colli y avait déjà élevé quelques redoutes et s'y était trouvé en position. Sa droite à Notre-Dame de Vico et son centre à la Bicoque. Dans la journée même, Serrurier enleva la redoute de la Bicoque et décida de la bataille qui a pris le nom de Mondovi. Cette ville et tous ses magasins tombèrent au pouvoir du vainqueur. Le général Stengel, qui s'était trop éloigné en plaine avec 1 millier de chevaux, fut attaqué par les Piémontais, doubles en force. Il fit toutes les dispositions qu'on devait attendre d'un général consommé et opérait sa retraite sur ses renforts lorsque, dans une charge, il tomba blessé à mort d'un coup de pointe. Le général Murat, à la tête de la cavalerie, repoussa les Piémontais et les poursuivit à son tour pendant quelques heures. Le général Stengel, alsacien, était un excellent officier de hussards. Il avait servi sous Dumouriez dans les campagnes du Nord, était adroit, intelligent, alerte. Il réunissait les qualités de la jeunesse à celles de l'âge avancé. C'était un vrai général d'avant-poste. Deux ou trois jours avant sa mort, il était entré le premier dans les Aigneaux. Le général français y arriva quelques heures après, et quelque chose dont il eut besoin, tout était prêt. Les défilés, les guets avaient été reconnus, les guides étaient assurés, le curé, le maître de poste avaient été interrogés, des intelligences étaient déjà liées avec les habitants. Des espions étaient envoyés dans plusieurs directions, les lettres de la poste saisies et celles qui pouvaient donner des renseignements militaires traduites et analysées. Toutes les mesures étaient prises pour former des magasins de subsistance, pour rafraîchir la troupe. Malheureusement, Stengel avait la vue basse, défaut essentiel dans sa profession, qui lui devint funeste et contribua à sa mort. Après la bataille de Mondovie, le général en chef marcha sur Kieraske, Serrurier se porta sur Fossano et Augereau sur Alba. 8. Prise de Kieraske le 25 avril. Ces trois colonnes entrèrent à la fois le 25 avril dans Kieraske, Fossano et Alba. Le quartier général de Colli était à Fossano le jour même que Serrurier l'en délogea. Kieraske, à l'embouchure de la Stoura et du Tanaro, était forte mais mal armée et point approvisionnée parce qu'elle n'était pas frontière. Le général français attachait une grande importance à sa possession. Il y trouva du canon et fit travailler à force à la remettre en état de défense. L'avant-garde passa la Stoura et se porta au-delà de la petite ville de Bra. Cependant, la jonction de Serrurier nous avait permis de communiquer avec Nice par Ponte di Nava. Nous en reçûmes des renforts d'artillerie et tout ce qu'on avait pu préparer. On avait pris, dans tous les différents combats, beaucoup d'artillerie et de chevaux. On en leva de tous côtés dans la plaine de Mondovie. Peu de jours après l'entrée à Kieraske, l'armée eut 60 bouches à feu approvisionnées. La cavalerie fit des remontes de chevaux. Les soldats, qui avaient été sans distribution durant les 8 ou 10 jours de cette campagne, commencèrent à en recevoir de régulières. Le pillage et le désordre, suite ordinaire de la rapidité des mouvements, cessèrent. On rétablit la discipline et chaque jour l'armée changea de face au milieu de l'abondance et de ressources qu'offrait ce beau pays. Les pertes se réparèrent. La rapidité des mouvements, l'impétuosité des troupes et surtout l'art de les opposer toujours à l'ennemi, au moins en nombre égal et souvent en nombre supérieur, joint au succès constant qu'on avait obtenu, avait épargné bien des hommes. D'ailleurs, les soldats arrivaient par tous les débouchés, de tous les dépôts, de tous les hôpitaux, au seul bruit de la victoire et de l'abondance qui régnait dans l'armée. On trouva en Piémont de tous les vins. Ceux du Montferrat ressemblaient aux vins de France. La misère avait été telle jusque-là dans l'armée française qu'on oserait à peine la décrire. Les officiers, depuis plusieurs années, ne recevaient que 8 francs par mois et l'état-major était entièrement à pied. Le maréchal Berthier a conservé dans ses papiers un ordre du jour d'Albenga qui accordait une gratification de 3 louis à chaque général. 9. Armistice de Kieraske le 28 avril. L'armée n'était plus éloignée que de 10 lieues de Turin. La cour de Sardaigne ne savait plus à quoi se résoudre. Son armée était découragée et en partie détruite. L'armée autrichienne, réduite à plus de moitié, semblait n'avoir d'autre pensée que de couvrir Milan. Les esprits étaient fort agités dans tout le Piémont et la cour ne jouissait nullement de la confiance publique. Elle se mit à la discrétion du général français et sollicita un armistice. Celui-ci y accéda. Bien des personnes eussent préféré que l'armée eût marché et se fût emparée de Turin, mais Turin est une place forte. Si l'on voulait enfermer les portes, on avait besoin d'un train d'artillerie qu'on n'avait pas pour les faire ouvrir. Le roi avait encore un grand nombre de forteresses et, malgré les victoires qu'on venait de remporter, le moindre échec, le plus léger caprice de la fortune, pouvait tout renverser. Les deux armées ennemies, malgré leurs nombreux revers, étaient encore égales à l'armée française. Elles avaient une artillerie considérable et surtout une cavalerie qui n'avait pas souffert. Dans l'armée française, malgré ses victoires, il y avait de l'étonnement. On demeurait frappé de la grandeur de l'entreprise. L'on doutait de la possibilité du succès quand on considérait la faiblesse des moyens. Le moindre événement douteux eut donc rencontré beaucoup d'esprits disposés à l'exagération. Des officiers, même des généraux, ne concevaient pas qu'on osât songer à la conquête de l'Italie avec aussi peu d'artillerie, sans presque de cavalerie, et avec une armée aussi faible que les maladies et l'éloignement de la patrie allaient affaiblir chaque jour. On trouve des traces de ces sentiments de l'armée dans la proclamation suivante du général en chef qu'il adressa à ses soldats à Kéraské. « Soldats, vous avez en 15 jours remporté 6 victoires, pris 21 drapeaux, 55 pièces de canon, plusieurs places fortes et conquis la partie la plus riche du Piémont. Vous avez fait 15 000 prisonniers, tué ou blessé plus de 10 000 hommes. Vous vous étiez jusque-là battu pour des rochers stériles, illustrés par votre courage mais inutiles à la patrie. Vous égalez aujourd'hui par vos services l'armée conquérante de la Hollande et du Rhin. Dénué de tout, vous avez suppléé à tout. Vous avez gagné des batailles sans canon, passé des rivières sans pont, fait des marches forcées sans souliers, bivouaqué sans eau de vie et souvent sans pain. Les phalanges républicaines, les soldats de la liberté étaient seuls capables de souffrir ce que vous avez souffert. Grâce vous soit rendue, soldats. La patrie reconnaissante vous devra en partie sa prospérité. Et si, vainqueur de Toulon, vous présageâtes l'immortelle campagne de 1793, vos victoires actuelles en présagent une plus belle encore. Les deux armées qui naguère vous attaquaient avec audace fuient épouvantées devant vous. Les hommes pervers qui riaient de votre misère et se réjouissaient dans leurs pensées des triomphes de nos ennemis sont confondus et tremblants. Mais, soldats, il ne faut pas vous le dissimuler, vous n'avez rien fait puisqu'il vous reste encore tout à faire. Ni Turin ni Milan ne sont à vous. Les cendres du vainqueur de Tarquin sont encore foulées par les assassins de Basseville. Vous étiez dénué de tout au commencement de la campagne, vous êtes aujourd'hui abondamment pourvu. Les magasins pris à vos ennemis sont nombreux, l'artillerie de siège de campagne est arrivée. Soldats, la patrie est en droit d'attendre de vous de grandes choses. Justifierez-vous son attente? Les plus grands obstacles sont franchis sans doute, mais vous avez encore des combats à livrer, des villes à prendre, des rivières à passer. En est-il entre vous dont le courage s'amollisse? En est-il qui préférerait retourner sur les sommets de l'Apennin et des Alpes, essuyer patiemment les injures de cette soldatesque esclave? Non, il n'y en a pas parmi les vainqueurs de Montenotte, de Millesimo, de Dego, de Mondovie. Tous brûlent de porter au loin la gloire du peuple français. Tous veulent humilier ces rois orgueilleux qui osaient méditer de nous donner des fers. Tous veulent dicter une paix glorieuse et qui indemnise la patrie des sacrifices immenses qu'elle a fait. Amis, je vous la promets, cette conquête. Mais il est une condition qu'il faut que vous juriez de remplir, c'est de respecter les peuples que vous délivrez. C'est de réprimer les pillages horribles auxquels se portent des scélérats suscités par vos ennemis. Sans cela, vous ne seriez point les libérateurs des peuples, vous en seriez les fléaux. Vous ne seriez pas l'honneur du peuple français, il vous désavouerait. Vos victoires, votre courage, vos succès, le sang de nos frères morts au combat, tout serait perdu, même l'honneur et la gloire. Quant à moi et aux généraux qui ont votre confiance, nous rougirions de commander à une armée sans discipline, sans frein, qui ne connaîtrait que la loi de la force. Mais investi de l'autorité nationale, fort de la justice et par la loi, je saurais faire respecter à ce petit nombre d'hommes sans courage, sans cœur, les lois de l'humanité et de l'honneur qu'ils foulent aux pieds. Je ne souffrirai pas que des brigands souillent vos lauriers. Je ferai exécuter, à la rigueur, le règlement que j'ai fait mettre en place. Les pillards seront impitoyablement fusillés. Déjà plusieurs l'ont été. J'ai eu lieu de remarquer avec plaisir l'empressement avec lequel les bons soldats de l'armée se sont portés à faire exécuter les ordres. Peuple d'Italie, l'armée française vient pour rompre vos chaînes. Le peuple français est l'ami de tous les peuples. Venez avec confiance au-devant d'elle. Vos propriétés, votre religion et vos usages seront respectés. Nous ferons la guerre en ennemis généreux, et nous n'en voulons qu'aux tyrans qui vous asservissent. Les conférences pour la suspension d'armes eurent lieu au quartier général, chez Salmatoris, alors maître d'hôtel du roi, et qui depuis a été préfet du palais de l'empereur. Le général piémontais Latour et le colonel Lacoste, chargés des pouvoirs du roi, se rendirent à Kéraské. Le comte de la Tour était un vieux soldat, lieutenant général au service de Sardaigne, très opposé à toutes les nouvelles idées, de peu d'instruction et d'une capacité médiocre. Le colonel Lacoste, natif de Savoie, était dans la force de l'âge. Il s'exprimait avec facilité, avec beaucoup d'esprit, et se montrait sous des rapports avantageux. Les conditions furent que le roi quitterait la coalition et enverrait un plénipotentiaire à Paris pour y traiter de la paix définitive, que jusque-là il y aurait armistice, que jusqu'à la paix ou à la rupture des négociations, Séva, Coni, Tortone ou à défaut Alexandrie seraient remises sur le champ à l'armée française avec toute l'artillerie et les magasins, qu'elle continuerait d'occuper tout le terrain qui se trouvait en ce moment dans sa possession, que les routes militaires dans toutes les directions permettraient la libre circulation de l'armée avec la France et de la France avec l'armée, que Valence serait immédiatement évacuée par les Napolitains et remise au général français jusqu'à ce qu'il eût effectué le passage du Pô. Enfin, que les milices du pays seraient licenciées et que les troupes régulières seraient disséminées dans les garnisons de manière à ne pouvoir donner aucun ombrage à l'armée française. Désormais, les Autrichiens, isolés, pouvaient être poursuivis jusqu'à l'intérieur de la Lombardie. Toutes les troupes de l'armée des Alpes et du voisinage de Lyon, devenues disponibles, allaient rejoindre. Notre ligne de communication avec Paris serait raccourcie de moitié. Enfin, on avait des points d'appui et de grands dépôts d'artillerie pour former des équipages de siège et pour assiéger Turin même si le directoire ne concluait pas la paix. 10. Le colonel aide-de-camp Murat traverse le Piémont et porte à Paris la nouvelle des victoires de l'armée. Le général Murat, premier aide-de-camp du général en chef, fut expédié pour Paris avec 21 drapeaux et la copie de l'armistice. Napoléon avait pris cet officier au 13 Vendémiaire. Il était alors chef d'escadron du 21e de chasseurs. Il a été marié depuis à la sœur de l'empereur, est devenu maréchal d'empire, grand amiral, grand-duc de Berg et roi de Naples. Il a eu une grande part dans toutes les opérations militaires du temps. Il a toujours déployé un grand courage et surtout une singulière hardiesse dans les mouvements de cavalerie. La province d'Alba que les Français traversèrent était de tout le Piémont le pays le plus opposé à l'autorité royale, celui qui contenait le plus de germes révolutionnaires. Il y avait déjà éclaté des troubles. Plus tard encore, il en éclata de nouveau. Si, au lieu de négocier, Napoléon eût voulu continuer la guerre avec le roi de Sardaigne, c'est là qu'il eût trouvé le plus de secours et le plus de disposition à l'insurrection. Ainsi, au bout de 15 jours, le premier point du plan de campagne était atteint, les plus grands résultats obtenus. Les forteresses piémontaises des Alpes étaient en notre pouvoir. La coalition se trouvait affaiblie d'une puissance qui avait 50 000 hommes sur pied et qui était plus imposante encore par sa position. La législature nationale avait décrété 5 fois que l'armée d'Italie avait bien mérité de la patrie dans les séances des 21, 22, 24, 25 et 26 avril. En conformité aux conditions de l'armistice de Querasque, le roi de Sardaigne envoya à Paris le comte de Revel pour traiter de la paix définitive. Elle y fut conclue et signée le 15 mai. Par ce traité, la place d'Alexandrie resta à demeure aux armées françaises. Suse, la Brunette, Exil furent démolis, les Alpes se trouvèrent ouvertes et le roi demeura à la disposition de la République, n'ayant plus d'autres points fortifiés que Turin et le fort de Bar. Nota bene, nous avertissons ici une fois pour toutes qu'il se trouvera des différences inévitables entre les rapports officiels et les chapitres. Elles sont fondées sur la précipitation des rapports, le désir du général en chef de déguiser alors ses plans, le besoin de tromper l'ennemi sur ses véritables forces, etc., etc. Par exemple, il est dit au rapport que Beaulieu attaqua en personne Monténoté. On le crut alors ainsi. Plus loin, il est dit que l'attaque sur Voltri ne fut faite que par 10 000 Autrichiens, mais ils avaient en arrière 2 colonnes de même force et qui devaient donner le lendemain. Beaulieu ayant jugé qu'il aurait affaire sur ce point à toute l'armée française. L'on dit aussi que Monténoté ne fut attaqué que par 15 000 hommes, parce que 10 000 hommes de ce corps étaient demeurés en arrière et formaient les communications avec la droite à Séva. Ce fut sur ces troupes que Masséna, débouchant au point du jour par Cadibone, tira le premier coup de canon. S'il n'y est point question des projets du général en chef, ni de ses négociations avec Gênes, c'est que le rapport publié n'est qu'un extrait de la correspondance officielle, et que d'ailleurs, comme nous l'avons déjà observé, il entrait dans les vues du général en chef de dérober à l'ennemi la connaissance de ses plans et de sa manière de faire. En voilà assez pour expliquer désormais les différences qu'on pourra remarquer. Nous répétons que notre observation actuelle doit être entendue une fois pour toutes. Fragment du chapitre 3. 1. Raison pour rester sur la ligne du Tessin. L'armistice conclu et les places de Cony, Tortone et Séva en notre pouvoir, on se demanda s'il était convenable de passer le Tessin. On concevait que l'armistice, qui avait mis les places fortes en notre pouvoir et séparé l'armée piémontaise de l'armée autrichienne, était utile. Mais on se demandait s'il ne serait pas désormais plus avantageux de profiter des moyens acquis pour révolutionner entièrement le Piémont et Gênes avant d'aller plus loin. Le directoire avait le droit de refuser les négociations proposées et de déclarer sa volonté par un ultimatum. Ne serait-il pas impolitique, disait-on, de s'éloigner de France, de passer le Tessin sans être certain de ses arrières? Les rois de Sardaigne, qui nous ont été si utiles tant qu'ils ont combattu pour nous, ont-ils plus contribué à nos revers dès qu'ils ont changé de politique? Aujourd'hui, la disposition des esprits ne saurait nous permettre la moindre illusion. Les nobles et les prêtres dominent cette cour et se trouvent les ennemis irréconciliables de la République. Si l'on éprouvait une défaite en avançant, que n'aurait-on pas à redouter de leur haine et de leur vengeance? Gênes même doit nous donner de grandes inquiétudes. Le système de l'oligarchie y domine toujours, et quelque nombreux que puissent s'y trouver nos partisans, y demeurent sans influence dans les décisions politiques. Les bourgeois de Gênes peuvent bien déclamer, mais là se borne tout leur pouvoir. Les oligarques gouvernent, ils commandent aux troupes, ils disposent de 8 à 10 000 partisans des vallées de Fontanabona et autres, qu'ils appellent à leur défense dans les moments de crise. Enfin, demandait-on, où doit-on s'arrêter? Doit-on passer le Tessin, l'Agia, l'Olio, le Mincio, la Dige, la Brenta, la Piave, le Tagliamento pour se porter sur l'Isonzo? Est-il sage de laisser derrière soi de si nombreuses populations si mal disposées? Le moyen d'aller vite n'est-il pas d'aller sagement, de se faire des appuis de tous les pays où l'on passe, en changeant le gouvernement, en confiant l'administration à des personnes de mêmes principes et de mêmes intérêts que nous? Si l'on se porte dans le pays de Venise, n'obligera-t-on pas cette république, qui peut disposer de 50 000 hommes, à prendre parti pour nos ennemis? 2. Raison pour prendre la ligne de la Dige. On répondait à cela, l'armée française doit profiter de sa victoire. Nous ne devons nous arrêter qu'à la meilleure ligne de défense contre les armées qui ne tarderont pas à marcher contre nous. Cette ligne, c'est la Dige. Elle couvre toutes les vallées du Pô. Elle intercepte la Moyenne et la Basse-Italie, elle couvre le blocus et le siège de Mantoue, et probablement cette place sera prise avant que la lutte puisse recommencer. En se portant sur la Dige, on a le moyen de pourvoir à toutes les dépenses de l'armée, parce qu'on en fait partager le poids à une plus grande population, à celle du Piémont, de la Lombardie et des légations. On craint de voir Venise se déclarer contre nous. Le meilleur moyen d'y remédier, c'est de porter un peu de jours de guerre au milieu de ces états. Elle n'est point préparée à un pareil événement. Elle n'a point eu le temps de faire des levées et de prendre des résolutions. Il faut empêcher le Sénat de délibérer. Au lieu que si nous restons sur le Tessin, les Autrichiens peuvent les forcer de faire cause commune avec eux, ou eux-mêmes y être portés par un esprit de parti. Le roi de Sardaigne n'est plus à craindre, ses milices sont congédiées, les Anglais vont cesser leurs subsides. Les affaires intérieures y sont dans le plus mauvais état. Quel parti que prenne la cour, les mécontents s'accroîtront. Après la fièvre vient la faiblesse, 12 à 15 000 hommes sont toutes les forces qui restent à cette puissance. Disséminés dans un grand nombre de villes, ils suffiront à peine à maintenir la tranquillité intérieure. D'un autre côté, la haine de l'Autriche contre le roi de Sardaigne ira toujours croissant. Elle se plaindra qu'à la première bataille perdue, elle a été abandonnée. Elle lui alléguera l'exemple de ses ancêtres qui demeurèrent des alliés fidèles lors même que la France était maîtresse de Turin. Tandis qu'ici, on a déserté la cause commune sans la perte même d'une forteresse. La cour de Sardaigne a donc désormais beaucoup à redouter des Autrichiens. Les oligarques de Gênes ne sont pas à craindre. Notre meilleure garantie contre eux, ce sont les profits immenses qu'ils recueillent de leur neutralité. En propageant les principes de la liberté en Piémont et à Gênes, en y allumant la guerre civile, c'est le peuple qu'on soulève contre les nobles et les prêtres. On devient responsable des excès qui accompagnent toujours une pareille lutte. Arrivés au contraire sur la Diche, nous serons maîtres de tous les états de la maison d'Autriche en Italie et de ceux du pape en deçà de l'Apennin. En position de proclamer les principes de la liberté et d'exciter le patriotisme italien contre la domination étrangère, l'irritation du peuple de Bologne et de Ferrare contre le gouvernement du pape. On n'aura pas besoin d'exciter la division des diverses classes de citoyens, nobles, bourgeois, paysans, tout sera appelé pour marcher d'accord pour le rétablissement de la patrie italienne. Le mot « Italiam, Italiam » prononcé de Milan à Bologne produira un effet magique. Proclamé sur le Tessin, les Italiens diraient « Pourquoi n'avancez-vous pas ?» 3. Topographie de l'Italie. Les grandes plaines de l'Italie septentrionale, comprises entre les Alpes qui les séparent de la France, de la Suisse et de l'Allemagne, entre les Apennins qui les séparent de Gênes et de la Toscane, et entre l'Adriatique, composent la vallée du Pô, les vallées qui se jettent dans l'Adriatique au nord du Pô, et les vallées qui se jettent dans l'Adriatique au midi du Pô. Toutes ces vallées ne sont séparées par aucune colline, de sorte que toutes les eaux pourraient se communiquer facilement si c'était nécessaire. Elles forment une des plaines les plus fertiles, les plus grandes, les plus riches du monde, couvertes de villes opulentes et d'une population de 8 à 10 millions d'individus. Cette immense plaine comprend le Piémont, la Lombardie, Parme, Plaisance, Modène, Bologne, Ferrare, la Romagne et les pays vénitiens. 4. Vallée du Pô. Le Pô prend sa source au mont Viso et reçoit successivement sur sa gauche, à Turin, la Doire qui descend du mont Genève, un peu au-dessous de Chivasso, la Doria Baltea qui vient du Grand Saint-Bernard, entre Casale et Valence, la Sessia, à Pavie, le Tessin, qui descend du lac Majeur et des hauteurs du Simplon, entre Plaisance et Crémone, l'Ada, venue du Bréder, près de Borgoforte, l'Olio, sorti du lac d'Isero, près de Governolo, le Mincio, venu du lac de Garda. Le Pô reçoit à sa rive droite tous les affluents des Apennins, le Tanaro au-dessous de Valence et d'Alexandrie, la Scrivia au-dessous de Tortone et de Castelnuovo, la Trebbia au-dessus de Plaisance, le Taro au-dessus de Casal Maggiore, le Crostolo près de Guastalla, la Secchia près de San Benedetto, le Panaro et le Reno dans les environs de Ferrare. Enfin, il se jette dans l'Adriatique à 30 milles au-delà de Ferrare par plusieurs bouches. Ce fleuve est une espèce de mer par la grande quantité de rivières qu'il reçoit de toutes les directions. Il est élevé au-dessus du sol et se trouve encaissé par des digues, de sorte que les plus belles contrées de l'Italie, comme la Hollande, se trouvent dérobées par l'artifice à l'invasion des eaux. Il y a peu ou point de sollicitude à prendre sur le cours des affluents de la rive gauche, la nature s'y exerce sans inconvénient. Ainsi, la Doria Baltea, le Tessin, la Da, entrent dans le Pô sans causer d'embarras. Il n'en est pas ainsi des affluents de la rive droite. Depuis le Tanaro, toutes les rivières sont sujettes à de grands désordres et donnent lieu à de grandes questions hydrauliques. Il faut chaque année hausser les digues parce que les pays limitrophes, surtout Parme, Modène, Bologne, Ferrare, éprouvent de fortes inondations. Ce sont ces perpétuelles difficultés de la nature qui ont rendu les Italiens si habiles dans la science hydraulique. Les ingénieurs de ce pays ont poussé plus loin que partout ailleurs cette branche importante de nos connaissances. Les affluents des deux rives du Pô diffèrent encore en ce que tous ceux de la rive gauche sont presque tous navigables et presque jamais guéables, tandis que ceux de la rive droite ne sont jamais navigables et se trouvent presque toujours guéables. Les uns sont des rivières, les autres ne sont que des torrents. Nota bene, ici finit la partie de ce chapitre. Je regrette d'autant plus de ne l'avoir pas dans son entier qu'il s'y trouve l'énumération méthodique de tous les moyens de défense de l'Italie contre l'Autriche, morceau que l'empereur lui-même n'hésitait pas à dire très beau et devoir demeurer classique pour le métier tant que la forme et les détails physiques de la péninsule, disait-il, ne seront point bouleversés.